L'avancée des recherches, eh bien, j'invite à présent le professeur Bruno Dubois, donc cofondateur de la Fondation Recherche Alzheimer, à monter sur scène. Il y aura un temps d'échange avec lui à la fin de son entretien, donc n'hésitez pas, il se fera un plaisir de répondre à vos questions. Bonne intervention, professeur merci. Bruno Dubois.
Merci, merci. Voilà. Très bien. Alors, je commence par une petite publicité pour un livre que j'ai commis il y a 2 ans et qui s'intitulait Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle. Bon, j'ai commis l'erreur de le sortir une semaine avant le Covid, ce qui était un peu maladroit parce que la vérité sur la maladie du siècle, bien sûr, la maladie du siècle, c'était devenu le Covid. C'est évident. C'est évident, mais pas tant que ça, puisque finalement, 2 ans après, on se rend compte que eh bien, on est sorti un peu de cette problématique et que les problématiques de fond demeurent, et donc notamment les problématiques liées à cette maladie d'Alzheimer. Donc c'est quand même, ça reste, et à mon avis, ça sera de plus en plus la maladie du siècle. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est le prix à payer de l'allongement de la vie. Et effectivement, l'allongement de la vie, c'est une conquête, et c'est une conquête, et il faut s'en féliciter. C'est une conquête d'une société occidentale qui, grâce à la qualité des soins, ont arrivé, si vous voulez, à faire en sorte que maintenant les gens vivent de plus en plus longtemps, et nous allons tous, main dans la main, vers l'âge où cette maladie devient naturellement fréquente. Sachez qu'il y a 2 siècles, l'espérance de vie était de 40 ans. Bon, il y avait les guerres napoléoniennes, il y avait plein de facteurs qui expliquaient ça, mais c'est quand même l'amélioration de la santé qui a fait que maintenant l'espérance de vie est de 85 ans en moyenne. Et si vous avez, ce que je vous souhaite, une petite fille qui naît aujourd'hui, eh bien son espérance de vie sera de 90 ans. Et à 90 ans, elle aura 4 chances sur 10 d'avoir la maladie d'Alzheimer, naturellement. Voilà, donc maladie de la personne, vous connaissez tout ça, mais surtout problème majeur de santé publique qu'on vient de découvrir finalement. Ça ne fait que 20 ans que les pouvoirs publics ont pris conscience de l'importance, et d'ailleurs l'IHU que Toulouse vient d'avoir rend hommage justement à la mobilisation de l'équipe toulousaine, représenté ici notamment par le docteur Delrieu, mais aussi de l'ensemble des acteurs locaux. Je pense bien sûr à mon ami Bruno Velas et à tout ce qu'il a fait ici à Toulouse. Donc je voudrais maintenant rapidement vous expliquer d'où on part et où on est aujourd'hui, faire une sorte de mise au point sur l'actualité. Vous allez voir comment cette maladie a énormément progressé. C'est la maladie du cerveau pour laquelle les progrès les plus importants ont été réalisés au cours de ces 20 dernières années. Alors d'où part-on ? On part de cette rencontre entre un homme et une femme, entre Alois Alzheimer et Auguste D. Vous connaissez cette photo peut-être, c'est la photo que lui-même Alzheimer a prise lorsque la patiente rentre dans son service. Elle a 52 ans à ce moment-là, et voilà l'observation le premier échange qu'il y a eu entre lui et cette patiente. Il la suit, et son équipe la suit pendant de nombreuses années, pendant 5 années, et finalement elle décède. Et finalement, ce qui va se passer, c'est qu'il va décrire, et je vous demande de bien regarder ce que je représente avec mes mains, il va décrire 2 choses. Il va décrire un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de signes, d'un côté, qui sont très précis et qui, finalement, se caractérisent par des troubles, on va appeler cognitifs, des troubles du comportement et des troubles psychiatriques. Voilà, tout ça, c'est le syndrome. Et il relie ce syndrome à des lésions qu'il décrit dans le cerveau de cette patiente, et donc il établit une relation entre les deux. Il dit les signes et les symptômes que présente cette malade sont liés à la présence de ces 2 lésions, et c'est les 2 seuls mots médicaux que je vous dirai pendant cette intervention, les lésions amyloïdes et les lésions tau. Et c'est la première fois, à une exception près que je n'ai pas le temps de détailler, c'est la première fois qu'on va dans l'histoire du monde relier des troubles psychiatriques, des troubles psychologiques, des troubles mentaux à des lésions cérébrales, et donc rattacher dans une certaine mesure la pensée au cerveau. Je trouve que c'est vraiment à ce sujet-là aussi très intéressant. Le deuxième point qui est notable, c'est qu'il décrit cette maladie chez une personne jeune, et très longtemps la maladie d'Alzheimer restera une maladie qu'on appelle du présénium, restera une démence. Je vous expliquerai après ce que l'on entend nous en médecine par le mot démence, mais si vous voulez, depuis cette période, la maladie d'Alzheimer est liée à l'adulte jeune. C'est la démence qu'on appelle présénile. Donc c'est ça la maladie d'Alzheimer. Et moi, j'ai appris la maladie d'Alzheimer comme étant une maladie rare, voire très rare. On en voit en neurologie, mais c'est rare quand elle touche des patients jeunes. Et puis, on s'est rendu compte qu'une autre maladie que vous connaissez, qu'on appelle le gâtisme, qu'on appelle la démence sénile, on s'est rendu compte que cette maladie, la démence sénile, avait les mêmes caractéristiques neuropsychologiques, cognitives, les mêmes caractéristiques neuropathologiques, les mêmes lésions dans le cerveau, ces fameuses lésions-là, les mêmes déficits biochimiques. Et donc, un médecin en 1976 a considéré qu'il n'y avait pas lieu de séparer ces deux maladies qui sont les deux extrémités d'un même spectre, simplement parce qu'il y avait une différence d'âge entre les formes jeunes et les formes âgées. Et donc il a réuni sous le même vocable la maladie d'Alzheimer. Je vous dis ça parce que beaucoup d'entre vous nous disent « Oui, mais moi j'ai dans ma famille une grand-mère qui a perdu un peu la tête. » Vous savez, on disait qu'elle avait été un peu sénile, quoi. Et puis maintenant on dit « sa maladie d'Alzheimer ». Alors je ne comprends pas, je suis perdu. Est-ce que c'est la même maladie ? Oui, c'est la même maladie. C'est exactement la même maladie. Ce sont les mêmes lésions. Et sauf qu'elle survient plus tardivement. Donc finalement, on a fait de cette maladie qui était une maladie rare, même très rare, une maladie extrêmement fréquente. Et c'est en cela que ça devient un problème de santé publique. Alors que s'est-il passé depuis toutes ces années, depuis 1906, date à laquelle Alois Alzheimer décrit et rapporte cette entité clinico-pathologique? Eh bien, la première chose, il s'est passé plein de choses, et je vais essayer de vous le montrer rapidement. Je vais simplement vous rappeler comment on faisait le diagnostic avant les progrès dont je vais vous parler. On faisait le diagnostic en disant cette personne a une démence. La maladie d'Alzheimer, je vous l'ai dit, c'est une démence, c'est-à-dire qu'on ne s'intéressait à la maladie que lorsque les gens étaient suffisamment sévères et avancés pour arriver à ce stade de démence qui est défini en médecine simplement par une seule chose, c'est la perte de l'autonomie. Et dément, pour nous médecins, non pas quelqu'un qui est fou, non pas quelqu'un qui perd la raison, pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est quelqu'un qui n'est plus autonome, qui ne peut plus se déplacer seul, qui ne peut plus prendre ses médicaments tout seul, il a besoin d'être aidé, il est dépendant, il a besoin d'une présence autour de lui, il atteint ce stade de démence. Voilà, c'est le terme médical malheureux, mais qui décrit un état à partir duquel on se pose la question, cette démence est due à quoi? Et c'est comme ça qu'on faisait le diagnostic de maladie d'Alzheimer. À l'époque, on disait, voilà, c'est un sujet qui atteint le stade de démence et par élimination, parce que ce n'était pas vasculaire, parce que ce n'était pas tumoral, parce que ce n'était pas infectieux, parce que ce n'était pas inflammatoire, parce que c'était progressif, que ça touchait une personne âgée, on disait c'est une démence de type Alzheimer. Mais c'est un diagnostic de probabilité, parce qu'on ne pouvait pas, à ce moment-là, accéder aux lésions cérébrales décrites par Alzheimer. Donc on n'avait que le syndrome, vous voyez, mais on n'avait pas la possibilité, évidemment, d'affirmer le diagnostic, puisqu'on n'avait pas les lésions de la maladie pour nous convaincre qu'il s'agissait bien d'une maladie d'Alzheimer. Donc on dit que c'est un diagnostic de probabilité. Alors, que s'est-il passé? Et c'est ça que je voudrais vous raconter concernant cette maladie. Plusieurs choses. Premièrement, contrairement à ce que l'on nous avait appris, ce que j'avais appris à l'époque, il n'y a pas autant de maladies qu'il y a de malades. Il y a une maladie d'Alzheimer qui est relativement homogène, relativement stéréotypée et qui se caractérise par des lésions qui débutent ici, dans une région du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. Vous voyez cette petite région. Et la maladie va longtemps rester localisée ici, au niveau de l'hippocampe, l'hippocampe étant, si vous voulez, le péage de l'autoroute des souvenirs. Voilà. Et quand l'hippocampe est cassé, on a des troubles de mémoire parce qu'on ne peut pas faire rentrer de l'information dans le cerveau. Donc longtemps localisé à l'hippocampe. Et puis, secondairement, vous voyez, les lésions vont diffuser vers les régions frontales en avant, puis vont intéresser l'ensemble du cerveau pour entraîner les fameux troubles dont j'ai parlé tout à l'heure, troubles cognitifs, troubles comportementaux, et on va en parler, mais qui vont retentir sur l'autonomie. Et là, on sera bien sûr au stade de démence. Donc, dans ce contexte-là, on peut décrire deux niveaux différents. Une phase qu'on va appeler prédémentielle, une phase prodromale, qu'on a appelée la phase prodromale, la phase débutante, si vous voulez, qui se caractérise essentiellement par des troubles de mémoire liés à l'atteinte prépondérante de l'hippocampe. Et puis, secondairement, il va y avoir une diffusion des lésions à l'ensemble du cerveau, responsable de troubles du jugement, des troubles du langage, des troubles des gestes, des troubles de reconnaissance des visages, des troubles du caractère, des modifications du caractère, retentissant sur l'autonomie du sujet, définissant la démence. Et là, on arrive à la phase démentielle. Donc, voyez cette opposition entre deux phases, une phase prodromale, une phase démentielle. C'est important de vous le rappeler parce que j'en reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, quand on dit que finalement la maladie d'Alzheimer débute par des troubles de mémoire, évidemment, tous ceux qui ont les cheveux blancs ici s'inquiètent et se disent, ben oui, moi je me plains en permanence de ma mémoire, ça, il est en train de me dire que j'ai la maladie d'Alzheimer. Bon, alors, il faut clarifier les choses, parce que moi-même, qui ai des cheveux blancs, je passe mon temps à chercher mes lunettes, mon journal, mes clés, parfois l'emplacement de ma voiture. Comme je dis, je fais de la recherche. Beaucoup qui font de la recherche aussi ici et qui sont inquiets. On se plaint beaucoup de sa mémoire à partir d'un certain âge. Et j'ai l'habitude de poser la question que ceux qui ne se sont jamais plaints de leur mémoire lèvent le doigt. Généralement, il n'y a pas grand monde qui lève le doigt. Tout le monde se plaint de sa mémoire. Donc, vous voyez, quand on arrive à ce niveau-là, évidemment, il va falloir gérer cette réalité qui est que si tout le monde se plaint de sa mémoire, c'est que c'est relativement banal, c'est la norme. À l'extrême, il est anormal de ne pas se plaindre de sa mémoire, vous voyez, si on pousse l'argument. Et d'un autre côté, parmi ceux-là, il y en a qui ont bien sûr des troubles sérieux de la mémoire. Donc, il faut dissocier clairement plainte de mémoire, déficit de mémoire. Vous voyez, les deux choses ne sont pas pareilles. On peut se plaindre de sa mémoire parce qu'on a des troubles plutôt attentionnels, on a des troubles de l'attention, on ne fait pas attention aux choses sans importance. Et quand on a vraiment une inquiétude, on va faire des tests et là, on verra s'il y a ou non un trouble de la mémoire, un déficit de la capacité à garder une information quand elle a été bien fixée. Ce sont deux choses complètement différentes. Et je voudrais, pour vous en convaincre, vous raconter, c'est un petit travail que j'avais fait il y a longtemps avec Agnès Michon dans mon service, mais c'est intéressant, c'était simplement pour, on avait quantifié l'intensité de la plainte, je ne rentre pas dans les détails, simplement regardez la hauteur, vous voyez, ça va de 0 à 160, on avait quantifié l'intensité de la plainte dans deux populations différentes, une population de sujets normaux, parce qu'ils ont un MMS. Le MMS, c'est un peu le thermomètre du fonctionnement cognitif. Normalement, il est de 30, on a tous ici dans cette salle un MMS entre 29 ou 30, on est normaux. Et là, vous avez, vous voyez ici, la courbe de plainte de sujets normaux qui sont dépressifs. Voyez, la plainte est très élevée, voyez, jusqu'à 160, là, ils se plaignent beaucoup, mais leurs performances sont normales. Leur mémoire est normale, mais ils se plaignent. Et puis vous avez au-dessous une autre courbe, qui est même, c'est même pas une courbe, c'est une plate, une droite pratiquement plate, de gens qui ne se plaignent pas, mais qui, en revanche, ont un MMS à 20 sur 30. Vous voyez, eux, à la différence des autres, eux, ils ont des troubles de mémoire, et ils ne se plaignent pas. Ce sont des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Ce qui m'avait fait dire, à l'époque, de façon un petit peu provocante, plus on se plaint de sa mémoire, moins on a de risques de développer la maladie d'Alzheimer. Et généralement, quand je dis ça, il y a une petite détente que je perçois dans la salle. Voilà. Donc, il faut retenir, si vous voulez, c'est un peu paradoxal, mais derrière cette idée, il y a quand même, je vous demande de garder en mémoire, c'est le cas de le dire, que la plainte ne nous renseigne pas sur le fonctionnement de la mémoire. La plainte, ça nous renseigne sur, le plus souvent, le fonctionnement de nos ressources attentionnelles, mais non pas sur notre capacité à garder une information en mémoire. Pourquoi ? Parce que pour garder une information en mémoire, il faut que cette information passe par trois étapes différentes. Il faut d'abord qu'elle soit saisie, qu'elle soit enregistrée. Et ça dépend de notre système attentionnel. C'est-à-dire, il faut qu'on soit attentif à ce que l'on voit, ce que l'on entend, c'est-à-dire notre système perceptif. Et une fois qu'on a bien enregistré l'information, l'information est envoyée comme un ballon de rugby. Je choisis bien mon expression à Toulouse, d'envoyer comme un ballon de rugby vers l'hippocampe qui va, si vous voulez, ouvrir, vous voyez, c'est cette petite boule qui va ouvrir la porte de la banque dans laquelle on va stocker l'information. D'accord ? Et une fois que l'information qui a bien été perçue, qui a bien été reçue et qui est bien stockée, il faut encore aller la chercher et on sait qu'au cours du vieillissement normal, on a un petit peu de difficulté à activer les stratégies de récupération. C'est ce qu'on appelle le syndrome du bout de la langue. Je sais que je sais, c'est toujours comme ça, vous me demandez le truc, ça, et c'est quand je vais sortir dans l'escalier que ça va me revenir. C'est un phénomène banal. Donc, vous voyez qu'on peut avoir une difficulté à restituer une information pour trois raisons différentes. Parce qu'on a des troubles de l'attention, parce qu'on est dépressif, parce qu'on est surmené, parce qu'on a des troubles du sommeil, parce qu'on est anxieux, parce que voilà, bon, plein de raisons qui font que ça retentit sur l'attention, parce qu'on prend des médicaments aussi qui peuvent agir sur l'attention, ou parce qu'on a une maladie de l'hippocampe, et là on ne stocke pas l'information, et ça c'est sérieux, l'information n'est pas stockée, elle n'est pas transformée en trace de mémoire. Et il faut comprendre que ces sujets-là qui ont cette maladie de l'hippocampe, qui sont au stade débutant, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, eh bien, ils se rappellent des choses anciennes parce qu'ils ont mis, ils ont plein de choses ils ont stocké plein de choses tout au long de leur vie. Et c'est le paradoxe un peu douloureux de ces familles qui nous conduisent leurs patients en disant, écoutez, ça ne doit pas être bien grave, sa mémoire est très bonne, il se rappelle le nom de sa maîtresse d'école, le nom de le jour de son mariage, etc. Il se rappelle de tout ça. Oui, mais on va lui poser la question, mais est-ce qu'il se rappelle de ce qu'il a eu à dîner hier? Non, mais bien sûr, il ne se rappelle pas de ça, mais il se rappelle très très bien de sa jeunesse. Mais non, mais est-ce qu'il se rappelle de ce qu'il a fait hier? Non. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été stockées, mais est-ce qu'il est capable de stocker de nouvelles informations? Voilà. Donc ça, c'est la maladie d'Alzheimer. Alors la deuxième notion qu'il faut que vous ayez, c'est que, quand je vous ai dit, vous voyez, les syndromes ici, et puis les lésions, on n'y a plus accès, c'est faux. Aujourd'hui, on y a accès grâce aux biomarqueurs. C'est-à-dire que maintenant, on peut visualiser les lésions dans le cerveau des patients. Il suffit d'injecter une petite substance qui vient se fixer sur les lésions de la maladie. Et vous avez ici la grille de lecture, c'est très facile. Vous allez voir, vous êtes aussi bon que nous maintenant pour lire ces examens. Quand c'est bleu, c'est froid. Quand c'est rouge, c'est chaud. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lésions. Et là, vous avez le cerveau d'un sujet contrôle. Vous voyez, le cortex, c'est tout ce qui est autour. Vous voyez, c'est bleu, il n'y a pas de lésion. Et là, vous avez un sujet qui a AD, Alzheimer disease, vous voyez, c'est jaune, c'est rouge, vous voyez, il a des lésions plein de cerveau. Ce patient, il a un syndrome et les lésions de la maladie d'Alzheimer. Donc on peut maintenant, aujourd'hui, faire le diagnostic formel de maladie d'Alzheimer grâce à ce qu'on appelle ces biomarqueurs que l'on identifie en PET scan. On peut, cet examen est utilisé en recherche, mais on nous a interdit de l'utiliser en clinique. Donc on a trouvé d'autres moyens qui sont aussi efficaces, c'est la ponction lombaire, car au prix d'une petite piqûre dans le dos avec des aiguilles très fines maintenant qui sont absolument pas douloureuses, on arrive à récupérer l'information des lésions du cerveau. C'est ce qu'on appelle les biomarqueurs du liquide céphalo-rachidien. On mesure la concentration de protéines tau et de protéines amyloïdes dans le liquide céphalo-rachidien. Donc on a également la même information par cet examen, et on est en train de travailler sur la possibilité de récupérer cette information simplement par une prise de sang, car on a des examens maintenant tellement sensibles qu'ils sont capables de détecter des toutes petites dilutions. Vous vous rendez compte, on est très très loin du cerveau. Eh bien, on arrive dans le sang à trouver, notamment dans la phosphorylée en 217, des concentrations qui sont le reflet périphérique de ce qui se passe dans le cerveau des patients. Alors, grâce à ces biomarqueurs, vous voyez, maintenant, on peut identifier la maladie de façon formelle. On peut donc améliorer le diagnostic. Bon, je passe là-dessus, mais simplement pour vous dire que grâce aux biomarqueurs, maintenant, on a l'entité clinique et biologique, et on a travaillé sur ces entités cliniques, biologiques qui permettent d'affirmer le diagnostic. Mais on peut aussi, avec ces biomarqueurs, mesurer l'efficacité des médicaments. Alors voilà ce qui se passe comment en pratique. Dans ces essais thérapeutiques, on mesure la concentration de lésions avec l'examen que je vous ai montré, l'examen visuel que vous avez vu. On mesure la concentration des lésions et on voit ce qui se passe au cours du temps, en sachant que ces essais thérapeutiques durent à peu près, durent en moyenne un an et demi, c'est-à-dire 18 mois. Et vous voyez que par rapport à l'entrée, les trois derniers médicaments qui ont été utilisés, l'aducanumab, le lecanumab et le donanemab, ces trois médicaments entraînent une diminution considérable des lésions du cerveau, c'est-à-dire qu'ils nettoient les lésions amyloïdes du cerveau, puisque en moins de 18 mois, même en un an, voyez, on passe de 100 à peu près à 20, c'est-à-dire qu'on diminue de 80% les lésions de la maladie d'Alzheimer avec les médicaments aujourd'hui. Je fais une pause pour que vous enregistriez bien qu'on nettoie 80% des lésions Alzheimer avec les médicaments d'aujourd'hui. Alors, on nettoie les lésions, mais malheureusement, on n'avait pas l'effet espéré sur les symptômes. C'est-à-dire que les lésions étaient fantastiquement diminuées, mais les symptômes n'étaient pas améliorés de façon significative. Pourquoi ? Plusieurs hypothèses ont été proposées, mais l'une d'entre elles était que peut-être on étudiait ces médicaments chez des patients trop avancés dans leur maladie et qu'il fallait, et c'est l'intérêt de cette phase prodromale dont je vous ai parlé, peut-être aller vers les stades plus précoces en se disant, quand la maladie est déjà là, il est trop tard malheureusement pour espérer pouvoir agir parce que la maladie s'auto-entretient. Donc c'est la raison pour laquelle ces médicaments maintenant sont utilisés chez des patients relativement plus précoces et pour la première fois, vous en avez entendu parler, pour la première fois, on a maintenant des médicaments qui commencent à diminuer, ralentir l'évolution de la maladie. C'est-à-dire que quand vous comparez les patients traités par rapport à ceux qui n'ont pas de traitement, qui sont sous placebo, on voit une différence significative, voyez ici, dans l'évolution. C'est-à-dire qu'on ralentit l'évolution de la maladie. Je vous demande de bien comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne bloque pas les choses, on ne régresse pas, on s'aggrave, mais on s'aggrave moins vite qu'on s'aggraverait si on ne prenait pas les médicaments. Et l'hypothèse que l'on fait, si vous voulez, c'est celle-ci, c'est que cette différence, voyez, que l'on observe à 18 mois, ne peut aller qu'en augmentant, vous voyez, si on continue les droites, et qu'avec le temps, on peut espérer que cette amplitude d'effet augmentera, on peut l'espérer, ce n'est pas démontré, et qu'à l'arrivée, ça fera quand même des différences tout à fait notables, d'autant plus qu'on peut espérer maintenant que les nouveaux médicaments vont encore être plus efficaces que ceux-ci. Une notion aussi que les biomarqueurs nous ont appris, c'est, comme je l'ai dit dans le film et je vous reprends rapidement, c'est que les lésions, les biomarqueurs sont déjà modifiés jusqu'à 15 ans avant le début des symptômes. Alors, à partir de là, vous voyez, on voit apparaître, alors la première phase, c'est la phase classique, celle décrite par Alzheimer, la démence, puis la deuxième phase, c'est chez des sujets malades. C'est la phase prodromale, mais les sujets sont malades. Et maintenant, il y a une troisième phase qui apparaît, c'est celle de sujets qui sont normaux, qui sont au stade préclinique, mais qui seraient réunis à la maladie par la présence des biomarqueurs. Donc, dans ces trois situations, les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer sont présents, mais évidemment, la clinique est différente, la démence, le stade prodromal, le syndrome amnésique dont j'ai parlé tout à l'heure, ou l'absence de troubles cognitifs. Alors, cette population, évidemment, est extrêmement intéressante, puisque, comme je l'ai dit dans le film, c'est vers ça, alors c'est de la science-fiction, là maintenant je fais de la science-fiction, mais c'est vers là qu'on va, c'est-à-dire on se dit, finalement, ne faudrait-il pas repérer ces gens âgés, normaux, qui ont déjà des biomarqueurs positifs, puisque je vous ai dit qu'on allait bien plutôt pouvoir le faire dans le sang, ou tout au moins par différents examens, pour les inclure dans des études, pour voir si finalement, avec ces médicaments qui nettoient les lésions, on ne retarderait pas l'entrée dans la maladie. Voyez où on en est. Alors, et ça va très très vite, ça va très très vite, mais c'est intéressant comme approche. La seule chose, encore faut-il démontrer que le fait d'avoir des lésions dans ce stade-là détermine formellement qu'on va développer la maladie. Il n'est pas question de traiter des gens pour une maladie qu'ils ne développeront peut-être pas ou qu'ils ne développeront jamais. Voyez, donc il y a vraiment là une question qui se pose, c'est est-ce que le fait d'être biomarqueur positif détermine formellement qu'on va développer la maladie plus tard ? Moi, je peux être, par exemple, je suis cognitivement normal, je l'espère, je peux très bien me faire une... Je vois Del Rieu qui rigole, il a des doutes. Je peux très bien me faire une prise de sang ou une ponction lombaire ce soir, et puis on observera peut-être que j'ai des lésions. Mais est-ce que pour autant, je vais souhaiter me soigner pour une maladie que je ne développerai peut-être jamais. Voilà. Donc l'enjeu est très important et c'est l'enjeu du moment. C'est l'enjeu du moment. Alors, sachez que pour répondre à cette question, nous avons mis en place une étude longitudinale de suivi de gens âgés normaux qui ont accepté qu'on les suive, qu'on leur fasse plein de malheurs, pour essayer de répondre à cette question. 320 sujets qui ont été suivis. Sur les 320, je vous demande de bien suivre les chiffres, 28% avaient des lésions au PET amyloïde. Vous voyez, c'est cet examen que je vous ai montré. Il y en avait 28% qui avaient des lésions. Ils étaient normaux. C'était des sujets normaux. 28% avaient des lésions, c'est-à-dire qu'il y en avait 88. Ça fait 88. 88 des 320 sujets avaient des lésions. D'accord ? On les a suivis pendant 7 ans. Ils avaient 76 ans. Ils avaient 76 ans à l'entrée. Ils ont maintenant 83 ans. Donc à 83 ans, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Eh bien, sur les 88 qui avaient des lésions, seuls 16 ont évolué vers une maladie d'Alzheimer. Ce qui fait qu'il y en a 72 qui sont restés stables alors qu'ils avaient des lésions. Alors pour quelles raisons ? Je ne sais pas, mais ça veut... L'hypothèse que je formule, que nous avons formulée, c'est qu'il y a quand même des capacités du cerveau à résister contre l'agression structurelle. Comme si finalement il y avait des mécanismes de compensation. On ne connaît pas ces mécanismes de compensation, mais le hasard fait bien les choses. On a fait des électroencéphalogrammes à tous ces patients. Et on a vu, c'est juste un exemple, mais c'est intéressant, on a vu l'évolution de l'activité électrique du cerveau dans deux groupes de sujets. En haut, les sujets qui n'ont pas de lésions. Ils n'ont pas de lésions. Et vous voyez qu'il n'y a pas de modification au cours du temps, au cours de ces trois examens successifs. Il n'y a pas d'évolution de l'activité électrique du cerveau. En revanche, quand on regarde l'activité électrique des sujets qui sont restés stables, les 72 qui avaient des lésions, mais qui sont restés stables, on voit que comparé aux autres, l'activité électrique de la partie antérieure de la région frontale se modifie avec une augmentation de la bande alpha. Comme si, finalement, il mettait en place des stratégies de compensation qui permettent de maintenir la fonction alors même qu'il y a une altération de la structure. C'est ce qu'on a appelé le phénomène de résilience cérébrale. Il faut tenir compte, d'un côté, il y a des agressions, de l'autre côté, il y a des capacités de résilience, si bien que ça sera beaucoup plus compliqué qu'on ne le croyait. C'est bien de repérer ces gens à risque, mais il faut déterminer la hauteur du risque, car il n'est pas question de traiter n'importe qui n'a pas un risque très sévère ou très sérieux d'évoluer vers cette maladie. Voilà, donc moi je plaide pour des centres de prévention du vieillissement cognitif. Dans ces centres, voilà ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer des gens, vous voyez, comme ici, qui sont des gens sont des gens normaux ou des gens qui sont à risque. On va les suivre et on va faire des cohortes de sujets avec des bases de données qui nous permettront d'élaborer des algorithmes de prédiction, c'est-à-dire de savoir quel est le risque de survenue en fonction d'un certain nombre de paramètres. Et on étudiera ces... On utilisera, ces algorithmes de prédiction dans les services cliniques, dans les consultations de mémoire, pour définir un risque personnalisé. Et à partir de là, on pourra mettre en place des interventions ciblées contre des facteurs de risque modifiables ou avec les thérapeutiques, si on montre qu'elles sont bien tolérées ou qu'elles ne sont pas trop agressives chez les sujets qui sont à haut risque. Voilà rapidement brossé ce que je voulais vous dire sur cette maladie d'Alzheimer, en vous rappelant quand même l'historique. Vous voyez, au départ, une maladie clinico-pathologique, et puis l'arrivée des biomarqueurs qui a complètement changé les choses. Il faut comprendre cette révolution. C'est la seule maladie neurologique pour laquelle on a des biomarqueurs aussi efficaces, qui nous a permis d'affirmer le diagnostic, de repérer des patients à des stades prodromaux, même à des stades précliniques. Et c'est l'enjeu de demain, ces stades précliniques, dans une perspective de prévention thérapeutique, c'est-à-dire de prévention pharmacologique. Encore faut-il bien comprendre ce que signifie ce stade préclinique, car il n'est pas question d'abord de faire cette recherche chez tout le monde. J'anticipe tout de suite la question. On ne le fera pas de façon systématique tant qu'on n'a pas quelque chose à proposer. On ne va pas aller vers le dépistage de ces gens à risque si on n'a rien à leur proposer. Mais dans l'avenir, il faut qu'on travaille sur cette population, car mon idée, c'est qu'on n'arrivera pas à traiter les gens quand ils seront malades, mais en revanche, la solution passera par la prévention et la capacité à retarder l'entrée dans la maladie. Je vous remercie de votre attention.
Merci, professeur Bruno Dubois. Est-ce que vous avez des questions suite à son intervention ? N'hésitez pas à lever la main dans la salle et il y a un micro qui va passer juste là. Allez-y, madame. Il y a Marion Corvé qui va vous passer le micro.
Je voulais vous demander un peu par rapport aux lésions. Est-ce que vous entendiez parler, par lésions sur l'aspect cérébral ou ce sont des lésions plates?
J'ai pas très bien entendu, mais vous voulez des détails sur les lésions. Alors, il y a deux types de lésions. Il y a ce qu'on appelle des amas d'une substance amorphe, qui est la substance amyloïde, qui se dépose comme ça dans le cerveau, qui en réalité est produite par le cerveau, mais qui est normalement dégradée. On la dégrade, on a des mécanismes de dégradation. Il semble que dans la maladie d'Alzheimer, ces mécanismes de dégradation soient un peu dépassés, ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a des amas d'une substance amyloïde qui entraînent une dégénérescence des neurones qui arrivent sur ces plaques, et cette dégénérescence s'accompagne d'une modification d'une protéine constitutive des neurones qu'on appelle la protéine tau. Voilà.
D'accord, merci. Et je voulais vous demander aussi par rapport à ces patients qui sont résilients, est-ce que vous avez compris pourquoi ils étaient résilients ?
Alors, votre question est intéressante et me permet quand même de préciser quelque chose, c'est qu'effectivement on a été frappé par le grand nombre de patients résilients, comme vous dites, de sujets, c'est même pas des patients, de sujets stables. Et une des explications tient aussi au fait que nous avons une population qui est très biaisée, très choisie, puisque c'est pas n'importe qui vient dans ce genre de démarche très altruiste, de donner un peu de soi-même, de son temps, qui s'intéresse à la recherche, qui veut donner, voilà, qui veut participer, alors que ce sont des gens qui avaient, je vous dis, 75 ans ou 76 ans en moyenne. Donc manifestement, on a eu un biais de sélection, on a sélectionné des gens qui avaient un niveau culturel élevé. C'est-à-dire un niveau, un savoir, qui a fait des études, qui était au-dessus de la norme. Et on sait que ce niveau culturel est un des facteurs qui tamponne la survenue de la maladie, qui retarde l'entrée dans la maladie. Donc, manifestement, le choix de notre population biaise une partie des résultats. Mais ce qui est intéressant, c'est que, de toutes les façons, c'est cette population aussi qui viendra et qui voudra bénéficier de ces médicaments qui ralentissent l'entrée dans la maladie, si tant est qu'ils arrivent un jour. Donc, de toutes les façons, c'est la population, cette population d'études et la population qui nous intéresse. Alors, ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, c'est bien sûr qu'est-ce qui fait que, indépendamment de ça, il y a chez certains ces mécanismes de résilience. Alors, on ne les connaît pas, ces mécanismes de résilience, mais je crois qu'il faut travailler dessus. On dit, par exemple, qu'il y a des phénomènes inflammatoires qui interviennent à un moment donné dans la survenue de la maladie. Pour moi, ils sont plutôt la conséquence de ces lésions dont j'ai parlé et qui sont plus ou moins détergées, je ne sais pas comment on dit, par le cerveau, et donc qui vont entraîner une réaction inflammatoire. Peut-être que la capacité que l'on a à évacuer les produits de dégradation intervient dans la qualité du fonctionnement cognitif qui persiste. Voilà. Il y a plusieurs hypothèses, hein, mais vous avez raison, c'est l'enjeu, c'est de comprendre les mécanismes de résilience, exactement.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Une question au fond, là. Je ne sais pas, il y a une main qui se lève là-bas.
Allez-y, madame, avec le projecteur, pardon, je ne voyais pas.
Merci. À partir de quelle date il y a eu la possibilité traité, vous avez eu la possibilité d'utiliser les marqueurs pour déceler les lésions?
Alors, il y a d'abord eu des recherches sur les biomarqueurs du liquide céphalo-rachidien à la fin des années 90 qui ont un peu tâtonné. C'est un peu tâtonné avant d'arriver à un profil très, très clair. Mais c'est surtout, je dirais, le PIB, le Pittsburgh Compound, qui a été mis au point par nos collègues des États-Unis en 2004 exactement, ou en 2005, je me trompe peut-être à un an près, disons 2005, et le PIB a été utilisé d'abord en recherche, et puis très vite, d'autres laboratoires ont développé des équivalents du PIB, et on a pu y accéder, nous, en France, en 2006 ou 2007, enfin, c'était très rapide après. Alors, pour être précis, c'est un examen que l'on utilise que pour la recherche. On n'a pas l'autorisation, pour faire simple, pour l'utiliser en clinique, parce que le ministère de la Santé a eu peur que cet examen soit utilisé de façon un peu systématique chez tous les gens qui ont des plaintes de mémoire et qui on croule sous des demandes pour un examen qui était très onéreux. Ce qui est dommage parce qu'on considère que c'est un examen très intéressant dans des conditions précises. Il, comme vous l'avez compris, il contribue à une discussion diagnostique. Quand on hésite entre deux ou trois maladies chez quelqu'un de jeune, il est évident que si on pouvait recourir au PET amyloïde, ça nous serait extrêmement utile pour caractériser formellement une hésitation diagnostique, bien sûr.
Une deuxième question. Puisque vous dites que les trois molécules nettoient à 80%, 90, 80% les lésions amyloïdes, mais il semblerait que sur les sujets âgés, lors des premières expérimentations, ça n'a pas fonctionné parce que vous pensez que les sujets étaient trop âgés.
Non, trop avancés dans leur maladie. Pardon.
Okay. Oui. Mais ça veut dire que ça nettoie quand même, mais qu'il y a toujours les symptômes cliniques.
Exactement.
D'accord. Mais si ça nettoie quand même à 80%, est-ce que ça stoppe quand même l'évolution?
Alors, C'est l'idée, si vous voulez, c'est que je pense qu'il y a un moment donné où il y a la pathologie, si vous voulez, s'auto-entretient. Il faut avoir vu un cerveau, malheureusement au microscope, d'un patient atteint de maladie d'Alzheimer. C'est extrêmement dégradé, il y a énormément de lésions neuronales, il y a des désorganisations, si vous voulez, de réseaux neuronaux qui sont majeur. Et donc, il est clair que quand on est au stade de démence, déjà quand on est au stade de symptômes, on est déjà au sommet des courbes de dépôt de lésions. C'est-à-dire que dès que les symptômes arrivent, on a déjà saturé le cerveau de lésions. Donc, il est évident que quand on voit l'intensité des lésions qu'il y a chez les patients qui sont au stade de démence, il est illusoire d'espérer que l'on puisse bloquer le processus, tout au moins pour l'instant, oui, ça c'est sûr.
Même bloquer ce qu'on appelle la partie où les gens ne peuvent plus s'alimenter, ne peuvent plus tenir debout, etc. On ne peut pas.
On n'a pas la réponse parce qu'on n'a pas étudié ces médicaments à ce stade-là. On est obligé, si vous voulez, quand on développe des médicaments, de les développer à un stade où on peut quand même mesurer et on peut quantifier l'efficacité. Donc ce sont des patients qui sont à un stade de démence, mais pas de démence extrême, de démence d'intensité moyenne. Ils peuvent encore répondre à des questionnaires. Comme ça, on peut mesurer l'efficacité. Donc on n'a pas... Vous voyez, on rentre... Comme dirait De Gaulle, on rentre vers l'Orient compliqué avec des idées simples. On rentre dans une problématique très complexe et toutes les questions que vous posez, qui sont des questions légitimes, on n'a pas les éléments de réponse. Et c'est à l'usage qu'on va voir quelle est la meilleure indication de ces médicaments, en sachant qu'ils sont encore, à mon avis, très très performables, enfin peuvent être améliorés, car les réponses qu'ils donnent sont encore insatisfaisantes.
Et j'ai une dernière question,
et
puis après, je vous
embête. Ah non, vous m'embêtez pas, mais c'est simplement qu'il y a d'autres intervenants.
J'ai envie de demander aussi, qu'est-ce qui gêne à partir d'un moment où un patient ne peut plus rentrer dans une une recherche clinique parce qu'il est trop avancé. Qu'est-ce qui gêne si on a envie d'acheter le médicament, si on veut le payer soi-même et qu'on stigne une décharge, comme quoi on n'attaquera jamais le corps médical?
Non, mais vous avez, il n'y a pas de problème. Le problème, on en est très très loin parce que ces médicaments, on ne sait même pas s'ils vont être autorisés par l'Europe. Donc on est dans cette phase où on attend la réponse européenne. Les Américains, la FDA américaine a donné son autorisation. Le dossier a été déposé à l'Europe en janvier de l'année dernière, de cette année, pardon, et on attend une réponse en janvier de l'année prochaine. Et en fonction de ça, on verra à ce moment-là quelles vont être les indications qui vont être retenues par l'Europe et plus précisément par la France. Et nous travaillons, on commence à réfléchir, si vous voulez, à la façon de mettre en place ce médicament si on a l'autorisation de l'Europe. Et après, on verra comment on peut élargir dans un deuxième temps à d'autres indications. Mais c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans cette logique pour l'instant.
Merci beaucoup, professeur Bruno Dubois.